Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma recherche.
Quelles recherches mènent les chercheurs de l'UBO? Pourquoi écrivent-ils des articles et des livres? Comment le font-ils? Quel est l'intérêt de ce travail pour leur science et ou pour la société? Aujourd'hui, nous recevons Claire Machère, économiste à l'IFREMER au sein du laboratoire AMUR, aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux. Et nous nous posons la question de la prise en compte des connaissances scientifiques et des connaissances et des préférences des professionnels de la pêche pour viser une pêche durable. Bonjour Claire Machère.
Bonjour.
Pourriez-vous vous présenter votre parcours, spécialité et recherche actuelle?
Oui, alors moi j'ai un parcours assez pluridisciplinaire parce que j'ai fait d'abord une école d'agronomie à Rennes avec une spécialisation en halieutique, donc sur la pêche, où on faisait à la fois de la biologie, de l'économie, on mobilisait plusieurs disciplines. Et puis j'ai fait ensuite un DEA d'économie et politique maritime à Brest et une thèse où j'ai vraiment mêlé l'économie et la biologie dans des approches de modélisation bioéconomique pour l'analyse de mesures de gestion des pêcheries. Et donc aujourd'hui, je m'intéresse dans mes travaux vraiment à l'analyse et puis la gestion durable de ce qu'on appelle les socio-écosystèmes marins. Donc c'est vraiment, on prend en compte l'ensemble.
La socio-écosystème marin, donc voilà. Il y a socio, il y a éco et il y a bio.
Voilà, les écosystèmes en interaction avec tout le système humain.
D'accord. C'est l'idée qu'il y a une corrélation immédiate entre des données sociales, des données économiques et des données biologiques.
Il y a une interaction, entre toutes les composantes de ce système, les écosystèmes et les hommes.
D'accord. Bon, là, on va se focaliser sur un article récent que vous avez publié avec 7 co-auteurs dans le, alors excusez mon anglais, hein, Journal of Environmental Management. Et l'article intitulé en français, je vais le donner en français, c'est le rôle des protocoles techniques, des partenariats et de l'engagement des acteurs dans le développement de cadres pour l'aide à la décision et tout ça pour aider le management des pêcheries, enfin la gestion des pêcheries. Un travail appuyé sur 3 études de cas. Est-ce que vous pourriez un peu détailler, aller un peu plus loin dans la présentation de l'objectif de ce travail, de cet article ?
Oui, bah du coup, cet article, il présente des outils et approches qu'on a développés pour permettre de faire des études d'impact de différents scénarios de gestion, donc pour permettre d'évaluer les impacts biologiques, économiques et sociaux de différentes alternatives de gestion. Et donc, c'est des travaux qu'on a développés depuis plusieurs années pour être en mesure d'apporter des connaissances pour l'aide à la décision des pêcheries, notamment à l'échelle européenne. Donc on présente dans ce travail ce qu'on a développé. Donc c'est des outils d'extraction et de description de données de différentes natures biologiques, économiques, et puis des outils de modélisation de scénarios, de simulation en fait de différents scénarios. Et on montre en fait comment on a développé et utiliser ces outils dans des approches faisant participer les acteurs de la gestion des pêches et des pêcheries à l'approche. Donc c'est avec donc des applications notamment au golfe de Gascogne et au développement de plans de gestion dans cette zone-là.
D'accord. Alors, quelles compétences scientifiques faut-il réunir on voit un peu déjà, puisque on voit l'approche éco, sociaux, etc. Quelles compétences scientifiques faut-il réunir pour développer, pour viser une pêche appelée durable?
Donc alors, pour une pêche durable, déjà d'emblée, on y reviendra certainement, mais il ne faut pas que des compétences scientifiques pour arriver à une pêche durable, ce serait trop facile. Mais en termes de... Donc on voit qu'il y a vraiment un enjeu à associer les parties prenantes, les acteurs aux travaux conduits, aux travaux de recherche conduits pour tendre vers cette pêche durable. Hein, et c'est ce qu'on appelle tout le cadre de l'approche écosystémique des pêches inclut vraiment ça, la prise en compte des différentes interactions et avec un rôle de la science dans le fait de pouvoir faire participer et co-construire cette connaissance ensemble vers cette approche durable. Mais donc, en termes de compétences scientifiques, on mobilise dans ce cadre-là notamment la biologie les sciences humaines et sociales. Hein. Donc, pas que l'économie, en réalité. Hein.
D'accord. Et on va tout à l'heure, vous disiez, jusqu'à l'anthropologie, sociologie.
On voit vraiment l'intérêt au-delà des approches bioéconomiques dont il s'agit dans cet article-là, de mobiliser l'ensemble des sciences sociales autour de ces approches-là pour vraiment mieux connaître les interactions entre ce système social et puis la nature.
Le système biologique, on dirait. Ouais.
Voilà.
Alors oui, mais comment ça marche quand vous mettez autour d'une table un sociologue qui a 10 ans de sociologie derrière lui, qui n'a pas forcément fait de la biologie, un économiste qui a lui aussi sa propre épistémologie, son propre corpus théorique, etc., ses propres hypothèses, pas forcément partagées parfois avec le sociologue par exemple. Plus des statisticiens, des informaticiens pour simuler, des biologistes, et j'en oublie certainement. Quelles sont les conditions pour que ça marche un tel dialogue, et surtout pour produire ensemble quelque chose à la fois de cohérent et qui permet d'aller plus loin, quoi.
Alors du coup, il y a différentes composantes et différents niveaux, mais en fait au départ, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir un objectif commun, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve avec la participation avec les acteurs, c'est il faut quand même adhérer à un objectif commun pour avoir envie de se mettre ensemble et de discuter. Donc la première chose, c'est de partager cet objectif-là et l'intérêt du coup de mobiliser l'ensemble des connaissances pour arriver à alimenter et à répondre à une problématique. Donc ça, c'est la première chose. Après, j'ai une collègue qui parle d'empathie disciplinaire. Oui, j'aime beaucoup le terme, mais c'est vrai qu'il faut une certaine ouverture vers les autres disciplines et puis le fait de considérer ce qu'elles peuvent apporter, d'être persuadée de ce qu'elles peuvent apporter comme brique pour cet objectif commun en l'occurrence ici l'appui à la gestion durable des pêcheries. Après, c'est un peu, il y a différents types de disciplines, mais c'est vrai que quand on parle dans cet article-là de bioéconomie et d'associer biologie et économie, on a vraiment comme outil commun, c'est la modélisation comme outil d'intégration de connaissances. Et donc, finalement, dans ce cadre-là, la biologie, l'économie, elles sont décrites, les processus biologiques et économiques sont décrits par des équations et donc on est mis dans le modèle. Et donc là, on arrive facilement à dialoguer ensemble autour de nos équations et des interactions entre différentes variables.
Parce que vous réduisez, vous assemblez. Des phénomènes qui peuvent être disparates, mais derrière des chiffres. Et ça marche bien en économie, bon, même si parfois c'est contesté. Ça peut marcher en physique, ça marche parfaitement, mais là, on serait plutôt en biologie, ça marche déjà moins qu'en physique. Mais alors, avec la sociologie, l'anthropologie, ils recourent très rarement aux simulations, aux équations. Comment ça marche comment intégrer malgré tout le travail d'un anthropologue, par exemple, ou d'une anthropologue, à un travail commun poursuivi par des biologistes et des économistes.
Ça pourrait être l'objet d'une autre interview avec mes collègues anthropologues d'Amur, mais c'est vrai que chaque discipline a différentes contributions à cette question et appelle ça différemment. Hein. On parle transformation sociale, on l'aborde sous différents angles. Ici, on est sur de la simulation bioéconomique, de scénarios de gestion, de l'étude d'impact. Donc, on aborde un peu les choses par différents problèmes, par différents angles, en considérant pas tous les mêmes échelles, etc. Donc, ça suppose de s'accorder et de voir ça comme un ensemble. Mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment d'associer ici... donc l'article, il est très quantitatif, mais en fait, sur la partie bioéconomique et modélisation, mais en réalité, moi, je vois vraiment l'intérêt d'avoir des approches combinées entre du qualitatif et du quantitatif. Oui. Quoi, d'avoir, le modèle n'est qu'une partie simplifiée de la réalité, prenant en compte un certain nombre de phénomènes et d'interactions qui sont à compléter et à alimenter par d'autres connaissances qui peuvent être, elles, plus qualitatives, qu'il s'agisse de connaissances des acteurs qui vont nuancer ou soulever certaines limites aux hypothèses qu'on a pu formuler, ou de connaissances de nos collègues sociologues ou anthropologues sur des différents processus sociaux qu'on peut observer et qui vont alimenter aussi.
En fait, en plus de l'empathie, ça nécessite aussi une certaine humilité et du travail énormément, parce que ça veut dire, pour comprendre un anthropologue, il faut faire un peu d'anthropologie, enfin en tout cas, il faut comprendre d'où il parle. L'anthropologue, pour comprendre l'économie, il doit aussi peut-être rentrer un peu dans l'économie, peut-être le biologiste de la même façon. Enfin...
Oui, alors ce qui est intéressant, je trouve, dans ces travaux-là interdisciplinaires, c'est... moi, c'est un peu la façon dont je me positionne par mon parcours assez pluridisciplinaire. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas forcément être la plus pointue de mon équipe ni en biologie, ni en économie. En revanche, j'ai vraiment une posture qui permet de faciliter la discussion entre les deux et de créer à partir de ça d'autres choses en les mettant en cohérence. Donc c'est vraiment, pour revenir à la question initiale là, de comment on fait travailler les gens ensemble, je pense que dans ces approches-là, il faut des gens très pointus dans leur discipline et puis des postures un peu de facilitateurs, d'intégrateurs qui vont apporter en fait des outils ou des approches. Donc ça peut être la mobilisation, la modélisation, ça peut être aussi des approches de co-construction en fait qu'on mobilise beaucoup pour faire parler et faire co-construire ensemble et que chacun apporte sa connaissance et la mette en commun.
Donc, tout d'un coup, moi, je vois là, la métaphore du bâtiment où il y a des corps de métier et il y a quelqu'un qui est capable d'intégrer tous ces corps de métier pour reconstruire.
Oui, après, on peut avoir la métaphore du chef d'orchestre, mais c'est tellement...
Oui, chef d'orchestre aussi, oui.
Ça paraît.
Enfin, ils ont ensemble la partition quand même. Donc, vous intégrez quand même des données très, 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 très hétérogènes. Il faut avoir une idée, parce qu'il faut être concret. Si on va sur la pêche, c'est des salaires. C'est des engins de pêche, des filets avec des mailles plus ou moins grandes. C'est du pétrole, enfin du gasoil, du gasoil qui a un coût qui change. C'est aussi des échelles spatiales, temporelles et institutionnelles très diverses. On peut penser à un problème sur la baie de Saint-Brieuc, par exemple, pour les coquilles de Saint-Brieuc, mais... si vous êtes dans le golfe de Gascogne, peut-être c'est déjà plus européen. Et donc, on est vraiment dans une complexité maximale. Ouais, tout ça, en plus, pour parler de poissons qui, eux-mêmes, ont des comportements différents, qui peuvent changer de territoire, qui peuvent migrer, etc., etc. Alors, la question, comment agrège-t-on ? Alors là, il n'y a pas de réponse de magicien, mais comment... ce à quoi il faut penser pour agréger des données si hétérogènes ? De façon à aboutir à des visualisations de ces données qui permettent de comparer des scénarios, c'est-à-dire vraiment une agrégation, de choisir, de décider.
Alors nous, on décide pas, on aide à décider, on peut aider, on peut aider dans le sens où on peut mettre sur la table un certain nombre de connaissances qui permettent ensuite de décider et de prendre les décisions. Mais donc avant d'agréger ces données, on commence par notre point de départ, c'est vraiment la problématique de gestion. Donc nous, dans les étapes de travail qu'on a, on commence sur une pêcherie. Par aller prendre le pouls, essayer de faire un certain nombre d'entretiens pour voir un peu quelles sont les problématiques de gestion qui se posent. Et c'est en fonction de ces problématiques de gestion qu'on va définir l'échelle à laquelle on va travailler, l'échelle spatio-temporelle. On va dire, voilà, du coup, les problématiques qui se posent, par exemple, pour les plans de gestion des pêcheries du golfe de Gascogne, on voyait qu'il y avait vraiment les espèces emblématiques qui ressortaient de sol langoustin. Austin, Merlu, Baudroit. Enfin, et donc c'était la question de départ, c'était bah, qu'est-ce qu'on doit prendre comme espèce dans ces plans de gestion, quelle flottille serait potentiellement impactée, quel territoire. Enfin, et donc c'est de définir en fait tout ce système sur lequel on va travailler. Et ensuite, on va identifier les données dont on dispose qui permettent de décrire ce système-là et les interactions qui peuvent y avoir au sein de ce système. Et on va essayer de voir aussi, avec les acteurs notamment, s'il y a des données complémentaires qui permettraient de mieux décrire le système. Notamment, bah, en l'occurrence, on a beaucoup utilisé leur connaissance, puisque c'est eux qui le font, mais de toutes les pratiques de gestion des organisations de producteurs qui vont vraiment être en charge de la gestion des quotas et qu'on avait besoin de documenter. Donc on commence par décrire avant d'agréger, et l'agrégation, elle se fait ensuite dans le modèle.
Oui, le mot fort, c'est description, mais le deuxième mot fort, peut-être, c'est vous partez d'un problème qui est formulé par des professionnels. C'est-à-dire, ils voient des stocks de poissons qui évoluent et ils se posent la question de la gestion.
Par des professionnels, par des politiques, par...
Aussi, oui, en plus, ils sont...
Voilà, on part de la problématique de gestion, c'est une approche orientée problème, et puis ensuite, on essaie de voir ce qu'on a à disposition. Et cette étape, en fait, d'identification des données, de visualisation, de description et de visualisation, elle est vraiment très importante pour aussi arriver à être assez transparent sur ce qu'on va mettre ensuite dans nos modèles qui sont peut-être plus boîte noire.
Et... Ouais, sur la question de la transparence. Mais avant, je voudrais finir sur... Parce que là, on voit bien l'hétérogénéité des sciences qui sont mobilisées, enfin, les différentes sciences mobilisées. On peut peut-être dire un mot sur l'hétérogénéité aussi des acteurs mobilisés, différents métiers, mais il y a même différents intérêts avec des gens qui sont parfois en combat. Par exemple, j'ai vu dans le journal, pour l'inauguration d'un bateau de pêche de 80 mètres de long, donc c'est des pêcheurs hein, qui ont fabriqué ce bateau, enfin qui ont commandé ce bateau, et puis c'est également des pêcheurs qui l'empêchaient d'aller... Enfin, qui auraient souhaité que ce bateau n'existe pas. Ouais. Donc, à l'intérieur même des acteurs, il y a aussi des intérêts qui divergent.
Oui, bah, il y a une grande diversité hein, dans les flottilles de pêche qu'on peut, qui sont en jeu, avec suivant les mesures qui sont envisagées, des perdants, des gagnants.
C'est ça.
Des perdants, des gagnants à l'échelle de groupes de navires, mais ça peut avoir des répercussions aussi territoriales, avec certains groupes qui sont dans certaines régions plus que dans d'autres. Et donc ça, c'est vraiment une des choses qu'on étudie, c'est vraiment d'arriver à décrire les impacts potentiels. On les décrit du point de vue biologique, économique et social. Enfin, on décrit notamment qui ça va impacter et comment, en termes de groupes de navires plutôt. Après, on travaille aussi à l'échelle individuelle, mais on restitue à l'échelle de groupes de navires qu'on appelle, nous, les flottilles. Et là, on va pouvoir montrer que les petits, les gros, ceux qui pêchent au filet, ceux qui pêchent au chalut, selon les situations, vont être plus ou moins perdants, gagnants. Et donc ça représente des enjeux ensuite politiques et de choix, de préférences sociales.
Et c'est des enjeux énormes, on voit, parce que ça bagarre quand même autour de tout ça. Et donc, ça m'amène à la question suivante, c'est vous produisez de la connaissance avec toutes les précautions infinies que prennent quand même les scientifiques pour dire quelque chose, et moi, je rends hommage, là. Mais, malgré eux, parfois, les scientifiques peuvent aussi fabriquer ce que j'appelle, à la suite d'autres, des boîtes noires. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a un énoncé, mais on ne sait pas comment il a été fabriqué. Enfin, ou alors, pour rentrer dans cette boîte noire, il faut presque être soi-même scientifique. Donc, comment faire quand on se donne comme projet de contribuer à la décision, enfin, en tout cas, de l'aider, cette décision, pour permettre à tous les acteurs impliqués, qui ne sont pas forcément d'accord, d'accéder à différents niveaux d'agrégation des données qui permettent après de discuter, ou en tout cas à chacun de remonter des conclusions vers les hypothèses de travail.
Alors nous, les travaux vraiment sur le, qu'on essaie de développer et qui sont décrits là, dans cet article-là, c'est vraiment l'idée, c'est d'être dans des approches... participative où on fait participer les représentants des acteurs plutôt à différentes étapes de la recherche avec un objectif de mobiliser la meilleure connaissance disponible pour décrire le système de la façon la plus précise et être en mesure de présenter les enjeux les enjeux qui se posent. On est vraiment dans cette étape de d'aide à la décision. On n'est pas dans l'étape de décision qui, là, impliquerait de faire participer non pas les détenteurs de la meilleure connaissance, mais vraiment l'ensemble des citoyens pour récupérer, pour avoir pour les consulter sur leur préférence sociale pour telle et telle option de gestion. Là, on travaille plutôt, du coup, avec, par exemple, les représentants des organisations de producteurs ou les représentants des pêcheurs aux différentes échelles locales, régionales, nationales, qui, eux, vont avoir finalement un background scientifique assez poussé et qui vont avoir accès aux tenants et aux aboutissants des choix qu'on va pouvoir faire dans nos modèles.
D'accord.
Et de la connaissance qu'on va pouvoir y mettre, des sorties qu'on va pouvoir produire et qui vont pouvoir apporter des nuances et finalement des connaissances supplémentaires pour ensuite eux avoir une matière qui les intéresse parce que c'est des systèmes complexes avec des enjeux complexes et qu'en fait ils sont demandeurs aussi d'avoir un certain nombre de clés pour pouvoir ensuite négocier ce qu'il a et l'étape où le scientifique, lui, est invité comme citoyen, mais plus comme scientifique.
C'est ça, oui. Tout à l'heure, vous parliez d'une interprofession qui était capable, justement, de comprendre, de rentrer dans ces outils, d'y contribuer, de travailler avec vous, quoi.
Oui, là, par exemple, ce travail, c'est vraiment avec eux qu'on a, avec ce qu'on peut appeler l'interprofession. Enfin, c'est les structures de pêcheurs se sont dotées depuis plusieurs années d'un certain nombre de chargés de mission, avec souvent, d'ailleurs, cette formation d'Aliot. Je retrouve quelques camarades.
Que vous.
Oui, on est beaucoup. Hein. Et donc, avec un background scientifique, les scientifiques ne sont pas que dans les instituts de recherche et dans les universités. Et donc, ça facilite en fait cette prise en compte des connaissances des acteurs.
Parfois, parce que vous avez été sur la même bande d'école, quoi.
Oui.
D'accord.
Oui, c'est vrai que ça joue.
Ben, ça aide énormément d'avoir un background commun.
Commun, oui, c'est sûr.
Après, il faut quand même les impliquer. Ça, c'est pas si évident que ça. Dès lors que vous arrivez avec quand même l'ambition, c'est une grande ambition, de contribuer à la décision. Comment impliquer ces professionnels Comment faire Comment les impliquer? D'abord, ils ont besoin de vous, c'est sûr, mais ça peut ne pas suffire. J'imagine qu'il a fallu un processus peut-être pour arriver à ce que des acteurs professionnels d'une part, sollicitent les scientifiques, leur fassent confiance, les écoutent, utilisent leurs outils. Comment ça marche?
Nous, on a vraiment, c'est ce qu'on décrit dans le papier, essayé de définir une forme de protocole, en fait, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait d'avoir une première partie d'échange avec les représentants professionnels ou les professionnels pour bien saisir les enjeux et pas tomber à côté, voir les questions qui se posent, les problématiques de gestion qui se posent. Ensuite, on a eu plusieurs phases d'aller-retour en fait avec eux, on a présenté les données qu'on utilisait, on a essayé de voir quelles données complémentaires on pourrait mobiliser ou ils proposaient qu'on mobilise. On a échangé beaucoup aussi autour des descriptions de systèmes qu'on pouvait faire et avec l'importance qu'ils puissent retrouver aussi ce qu'ils ont observé eux dans par exemple les productions mensuelles de différentes espèces par espèce dans les flottilles. Ça, on a échangé là-dessus. Si. Et puis ensuite, il y a forcément la phase de modélisation, elle nous revient davantage, mais il y a vraiment une importance à ce qu'il y ait des allers-retours, qu'on présente et qu'on soit aussi transparent qu'on le peut sur les hypothèses qu'on met dans nos modèles et les limites de nos modèles. modèle.
Oui, il faut en parler aussi. Oui.
Avec vraiment l'idée que le modèle n'est qu'une partie de ce tout et que on peut compléter ou nuancer ce qu'on peut trouver avec nos modèles par d'autres formes de connaissances et pour ensuite faire ces études d'impact. Elles sont pas.
En fait, ça suppose du temps. En fait, ça suppose des années. En fait, plusieurs années. Oui. De collaboration.
Alors là, il y a eu différentes étapes. C'est vrai que le projet de base, finalement, on a fait pas mal en 2 ans, puisqu'on avait développé le modèle, l'approche, les outils d'extraction de données sur les 3 pêcheries. Et en 2 ans, avec les allers-retours, avec les professionnels, donc tout ça assez rapidement. Et ensuite, par contre, on a poursuivi le partenariat sur beaucoup plus longtemps, sur 6 ans, en fait, sur le golfe de Gascogne, où là, finalement, on est rentré dans d'autres dynamiques d'aller-retour avec des sollicitations qui ont été parfois à notre initiative, parfois à leur initiative, dans le cadre d'un autre projet qu'ils géraient. Il y a eu du co-encadrement de stages. Les projets de recherche, en fait, toutes ces dernières années, ont vraiment invité à associer les parties prenantes. Et donc, les financements étaient aussi conditionnés par ça. Ça a beaucoup D'accord, incité ouais. des gens. Et dans un des projets de recherche, il y avait aussi un cofinancement pour l'organisation de producteurs qui était vraiment partenaire du projet. Donc il y a eu en fait différentes formes de collaboration qui se sont poursuivies avec finalement l'agenda politique qui nous a rattrapé puisque c'est tombé pour les plans de gestion. C'était il y a un peu avant, hein, c'était il y a quelques années. Mais...
D'accord. Et là, tout d'un coup, une question me vient aussi. Sur la question du temps, vous élaborez des scénarios. Ces scénarios peuvent donner lieu à des décisions et donc à une modification de l'activité qui elle-même a un impact sur les données elles-mêmes. Et donc, il y a une boucle là. Alors, comment faire pour travailler avec des systèmes vivants ? Enfin, tout ça, c'est vivant. La sociologie, c'est vivant. L'économie, c'est vivant. Les poissons sont vivants. Et où vous faites un outil qui, à un moment, donne lieu à une décision, qui modifie l'action, donc, qui modifie le système. Quel pas de temps faut-il mettre en place ? Enfin, comment faut prendre en compte le feedback, quoi, de la réponse du système au scénario développé, ouais. Je suis clair ?
Pas tout à fait. Non, alors, du coup, l'outil qui aboutit à des décisions, on n'en est pas tout à fait là encore.
D'accord.
Mais
enfin, il y a des pratiques de pêche qui évoluent et donc il faut. Ça peut faire évoluer les données tout simplement parce que c'est plus les mêmes pratiques, quoi.
Oui, du coup, après, il y a une collecte de données, notamment sur économique, qui nous permet d'observer un certain nombre de changements de comportement. Et ensuite, nous, on a beaucoup utilisé aussi la connaissance des acteurs pour toute cette partie prospective sur les comportements potentiels des pêcheurs en réponse à la mise en place d'un scénario de gestion particulier.
D'accord.
Et c'est vrai que ça, c'est une source énorme d'incertitude dans nos modèles et dans nos approches, c'est d'arriver à anticiper quels vont être les comportements en réponse à une mesure particulière.
Oui, effectivement.
Et donc c'est là que j'ai trouvé que la collaboration a été hyper intéressante. C'est qu'on avait, avec la connaissance des organisations de producteurs, la connaissance de leur flottille de pêche, on a pu vraiment inclure dans nos modèles cette approche prospective des comportements en tenant compte des contraintes de savoir-faire, des contraintes techniques, des contraintes réglementaires ou de marché auxquelles allaient se confronter les pêcheurs et pour les prendre en compte au-delà des modèles de comportement qu'on pourrait faire statistiques qui sont relativement complexes. Et là, on a une approche un peu plus qualitative et pragmatique qui, à mon avis, est vraiment intéressante et applicable.
Peut-être question bien plus générale, quel est l'intérêt particulier d'un scientifique ? Vous êtes scientifique, vos collègues à Mur sont scientifiques, à s'inscrire dans... Alors non pas dans des processus... Enfin, vous n'êtes pas au niveau de la décision, mais vous êtes quand même au niveau de l'alimentation en info de la décision. Quel est l'intérêt pour un scientifique de participer à l'économie de la pêche, ouais, concrètement ?
L'intérêt, c'est dans les travaux de recherche qu'on fait à Mur, ils sont très appliqués et on a derrière ça la recherche d'une certaine utilité aux travaux qu'on peut faire. Donc on est vraiment dans l'idée que ce qu'on peut faire puisse servir de façon concrète pour aider à la décision, en l'occurrence, plutôt que décider. Mais après, ça c'est l'échelle européenne. Après, sur des échelles plus locales, on a plus de proximité entre l'aide à la décision et la décision. Mais à l'échelle européenne sur laquelle je travaille, on est plutôt dans l'aide à la décision. Mais donc, on recherche cette pertinence et cette utilité sociale, en fait.
Une forme d'expertise de que vous revendiquez, ouais. Peut-être dernière question, pour poursuivre ce travail, non, pour aller vers plus de une pêche plus durable. Encore, la pêche durable, on ne l'a pas définie. Hein. On pourrait définir qu'il y a différents équilibres. Et bon. Quel programme de recherche ou quelle recherche ou quelle discipline sur laquelle il faudrait avancer plus particulièrement, enfin, sur quoi il faudrait travailler plus pour aller plus loin sur la question de la pêche durable, ouais.
Alors, sur quoi il faudrait travailler plus que sur les disciplines, pour moi...
Quel chantier serait à construire, enfin bon...
Oui, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment... il est vraiment sur cette question d'intégration des connaissances de différentes disciplines dans des approches interdisciplinaires et d'intégration des connaissances académiques et des connaissances professionnelles, locales, dans des approches ce qu'on appelle transdisciplinaires maintenant. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à avoir le développement de compétences, outils, approches, postures qui permettent d'accompagner cette transition vers une prise en compte plus globale des interactions entre le système humain et puis les écosystèmes par ces approches interdisciplinaires et transdisciplinaires.
D'accord, plus de disciplinarité, plus de prise en compte des interactions. Merci à Claire Machère, économiste à l'IFROMER au sein du laboratoire AMUR, aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux. Dans le prochain numéro du Lab U, nous recevrons Valerne Dior, juriste, directeur adjoint du Lab Lex, le laboratoire de l'UBO de droit, qui nous présentera « Vous êtes naïve, Madame la juge, prison, délinquance, récidive, ces mots qui font peur » d'Isabelle Rome aux éditions du Moment 2012. Cet ouvrage est disponible dans les bibliothèques universitaires de l'UBO.